Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Radio Présence où je suis ravi de vous retrouver à l'occasion de ce nouveau numéro de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Et comme nous vous l'avions annoncé la semaine dernière, l'actualité musicale est toujours aussi intense en ce mois de février, et cela alors que les vacances d'hiver ont pourtant commencé. On a coutume de dire que les congés scolaires correspondent la plupart du temps à une accalmie dans les saisons culturelles. Il semble bien que ce soit à tort, au moins en ce qui concerne la musique dite classique. Les concerts et les récitals ne manquent pas en ce moment, et ils ne manqueront pas non plus dans les semaines qui viennent. Tant mieux pour nous et pour cette émission où j'ai le plaisir d'être entouré aujourd'hui d'Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, et de Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Bienvenue aussi à tous les deux, merci d'être encore au rendez-vous parce que nous ne serons pas trop de trois pour faire face au copieux programme de ce numéro. Nous allons le débuter, comme le veut la tradition, en revenant sur l'actualité de la semaine dernière. C'est parti pour notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et la semaine dernière, les mélomanes toulousains retrouvaient une très grande musicienne que nous avons la chance de voir et d'entendre souvent à Toulouse depuis quelques années, la pianiste argentine Marta Argerich. C'était jeudi 6 février à la Halograin et elle s'y produisait en duo à l'invitation de la saison des grands interprètes avec le violoncelliste israélien Misha Maïski. Je crois qu'on peut dire, sans exagérer, qu'il s'agissait d'un des concerts les plus attendus de l'année. Vous y avez assisté tous les deux, Anne-Marie et Serge. Est-ce que la prestation de ce duo, prestigieux et de formation ancienne, a été aussi brillante qu'on pouvait l'attendre ?
De manière générale, on peut dire oui. Même si, quand même, le démarrage a été un peu difficile pour ce concert. Un concert que j'ai pour ma part intitulé « Concert crescendo ». Parce que c'est allé jusqu'à l'excellence absolue pour la fin du concert. Au début, alors on ne sait pas pourquoi, ça a débuté par la deuxième sonate pour violoncelle et piano de Brahms, avec une Marta Argerich égale à elle-même, impériale, magnifique. Mais au tout début, Misha Maïski a eu quelques difficultés. C'est pourtant un très grand violoncelliste qu'on a surnommé à ses débuts le Rostropovich du futur, ce qui n'est pas rien.
Mais il avait été l'élève de Rostropovich.
Ah oui, oui, oui. Mais que voulez-vous, les artistes sont des êtres humains et bon, ça peut leur arriver. Effectivement, au début, il a eu quelques problèmes d'intonation dans le premier mouvement de la sonate de Brahms. Il peinait à trouver ses marques en quelque sorte, alors que c'est Marta Argerich qui finalement assurait.
Oui, qui a tiré vers le haut.
Ah, qui a tiré vers le haut, oui, oui, oui. Après cette sonate de Brahms, c'était les trois Fantasiestück, opus 73, de Robert Schumann, qu'il avait d'ailleurs écrit d'abord pour la clarinette, le piano, et qu'il a ensuite transcrit également pour le violoncelle. Là, c'était beaucoup mieux, évidemment, avec un premier volet intitulé « Tendre et avec expression », mais qu'ils ont joué avec une espèce de véhémence avec laquelle on n'a pas l'habitude d'entendre ce premier mouvement. Mais en fait, c'était vraiment très bon. Mais puis surtout, la seconde partie du concert était consacrée à la sonate pour violoncelle et piano, la seule écrite Dmitri Shostakovich, et là, c'était excellent. Plus qu'excellent, c'était vraiment impressionnant. Alors, il n'y avait plus aucun problème pour le violoncelliste, il n'y en avait pas plus qu'au début pour Marta Argerich, évidemment. Et là, c'est une autorité, une exactitude, une invention même, tout à fait incroyable, avec ce caractère un peu multiforme et ambigu qu'a toujours la musique de Shostakovich. On sait qu'il devait toujours écrire en fonction des autorités, mais en faisant passer quand même ses messages.
Il y a un double langage.
Ah, complet, complet. Et là, c'était vraiment idéal, avec un lyrisme sensible dans le premier mouvement, et puis surtout, alors, une intensité incroyable pour le deuxième mouvement, qui montre une rage impressionnante, avec un largo, comme sait les écrire Shostakovich, tout à fait glaçant, avec une angoisse incroyable. Donc, vraiment, vraiment, une interprétation tout à fait excellente de cette sonate de Shostakovich.
Qui a contrasté avec la performance dans le Brahms.
Tout à fait. Ça a été acclamé par une Halograin qui était pleine à craquer.
Mais pour Marta Argerich en général, ah, c'est oui, bien oui, rempli. Oui.
Et donc, du coup, ils ont donné 3 bis pas un seul, mais trois bis, avec deux pièces pour violoncelle et piano de Chopin, l'une des premières qu'il ait jamais écrite, qui est la polonaise opus 3, et le largo de sa sonate pour violoncelle et piano, l'opus 65, qu'il a écrite à la fin de sa vie, de sa courte vie. Donc, il y avait déjà ces deux pièces-là, et puis sont revenus encore, de nouveau rappelés par le public, pour jouer une transcription pour violoncelle du fameux et célèbre Liebeslied, les peines d'amour, du violoniste Fritz Kreisler. Donc, vraiment, un petit sourire viennois pour achever ce concert.
Anne-Marie, vous y étiez également. Alors, est-ce que vous aussi, le démarrage vous a laissé sur votre faim ?
Oui, le démarrage a été un peu difficile. Côté violoncelle, oui. Peut-être un petit problème technique sur l'instrument. C'est vrai qu'il a eu du mal à jouer juste et à maintenir une ligne qui était juste d'intonation. Mais ensuite, tout a changé dans le Schumann et bien sûr dans le Shostakovich. Je crois que tous les deux, en fait, Martha Argerich est royale dans ce genre de répertoire et même en musique de chambre aujourd'hui, parce qu'elle elle ne joue plus quasiment seule. Elle ne fait plus de
oui,
récital.
Elle joue,
elle fait de la musique de chambre sans la fadir, de façon tout de même engagé et avec une technique toujours irréprochable et royale. Et le violoncelle a eu du mal peut-être à être au même niveau au début, ou alors il avait peut-être un petit problème d'instrument, parce que le violoncelle c'est pas un instrument facile, et qu'ensuite il s'est bien rattrapé, parce qu'il a tout de même pas mal de qualités, mais là c'est vrai que dans le Schumann, ça n'a pas démarré tout à fait bien.
Dans le Brahms.
Et le Schumann était superbe. Je pense que le violoncelle peut être un instrument délicat.
Oui, ça paraît d'autant plus étonnant que c'est un duo qui est plus que rodé, hein, jouant ensemble depuis 1975. Alors évidemment, ils jouent pas ensemble tous les mois, mais bon, ils se connaissent suffisamment et je pense que ce répertoire, ils ont déjà dû l'aborder. C'est certainement pas la première fois qu'ils jouaient la deuxième sonate pour violoncelle et piano de Brahms. Bon, méforme à ce moment-là, il était peut-être pas tout
le
à fait dans
le
coup.
Et à ce niveau-là, le moindre problème sur un violoncelle est beaucoup plus perceptible qu'au piano,
oui,
parce que au
certes.
Piano, quelques notes peuvent. Tandis que là, c'est vrai que le violoncelle, il y a un problème de son, d'intonation, de continuité musicale qui fait que il a eu du mal à rentrer dans la sonate pour violoncelle et piano de Brahms. Il a dû la jouer déjà.
On dit ça de certains sportifs qu'ils ont du mal à rentrer dans le match parfois.
Oui.
Mais ensuite, la suite du concert, je pense que c'était vraiment de la musique de chambre comme on aime vraiment l'entendre. Pas la musique de chambre à peine, comme on dit, du bout des doigts, où on fait ça de façon intime. Là, c'était aussi pour s'adresser à un large public, puisque c'était dans une salle de plus de 2000 personnes.
Et oui, mais qui était complètement
pleine.
Remplie.
Ah oui, absolument. Et donc, un vrai triomphe, hein, il faut le
oui. Et comme ça a été crescendo, ils ont fini sur le meilleur.
Ah oui, il valait mieux ça. Absolument.
Eh bien, ils ont donc joué en bis le largo de la sonate opus 65 de Chopin, ce qui va nous donner l'occasion de l'écouter maintenant. Martha Argerich et Micha Maïski en duo, comme si vous étiez à la halle au grain.
Thank you.
l'argot de la sonate opus 65 pour piano et violoncelle de Frédéric Chopin, un des deux morceaux que Martha Argerich et Misha Maïski ont joué en bis lors de leur concert du 6 février à la Lograin. Notez que le prochain rendez-vous de la saison des grands interprètes est programmé mercredi 26 février à 20h et que vous pourrez y entendre du jazz avec le trio de Chic Corea. Deux jours plus tard, au même endroit, avait lieu un autre événement très attendu des amateurs de musique symphonique, cette fois l'interprétation de la colossale deuxième symphonie Résurrection de Gustav Mahler par l'Orchestre National du Capitole. Tougan Sokiev était de retour à la direction pour ce concert, où avait également été convoqué le chœur Orpheon Donostiara, la soprano Janine de Bic et la mezzo-soprano Christa Mayer, en remplacement de Janina Bechle, souffrante ce soir-là. Là aussi, vous étiez présents tous les deux, Anne-Marie et Serge, et il semble que ça a été un très grand moment de musique. C'est en tout cas ce que vous m'avez dit, Anne-Marie.
Ah oui, vraiment un très grand moment de musique, tant au plan de l'interprétation, techniquement, à tout niveau, vocalement, également au top sur le plan orchestral, que de l'émotion qui se dégageait de cette œuvre, qui est superbe. C'est quelque chose qui doit être joué de façon engagée. Et cette interprétation captivait, était aussi émouvante. Et il y avait quand même 2200 personnes à la halle, puisque le concert affichait complet. Et ce n'était pas une œuvre tout de même, on pourrait dire, très grand public. Ce n'était pas la 5e symphonie de Beethoven ou quelque chose.
Non, ce n'était
pas une œuvre facile. Facile, les gens, le silence, la qualité de silence, jusqu'au fameux final avec Résurrection, avec le chœur Orpheon Donostiara, ces voix basques qui sont merveilleuses parce qu'elles savent chanter pianissimo quand il le faut, avec une ferveur immense, et surtout dans une œuvre comme ça, c'était vraiment de très très haut niveau. Et je crois qu'on a assisté là à un des concerts les plus complet sur tous les plans de la saison, avec un orchestre qui a beaucoup de difficultés à résoudre. Il y a des tas de solos délicats dans cette œuvre. On a assez dit à une époque, on disait, il y a déjà pas mal d'années, mais enfin, que les orchestres français ne pouvaient pas jouer Mahler. Je me souviens que Michel Plasson avait eu du mal à programmer un cycle Mahler, parce qu'on disait que les orchestres n'étaient pas capables de le faire techniquement. L'orchestre du Capitole n'a aucun problème. Donc, avec un chœur de ce niveau, nous avions cette symphonie dite Résurrection qui culminait dans son final avec un crescendo dans l'émotion, avec une unité qui était vraiment superbe, et je crois que le public a acclamé, et vraiment, c'était un très très grand moment.
Oui, tout à fait. Il faut peut-être rappeler que c'est quand même une des premières symphonies, après la 9e de Beethoven, dans laquelle intervient un chœur.
Oui.
Et ce que disait Mahler lui-même, voilà ce qu'il disait. « Je portais en moi depuis longtemps la pensée de placer le chœur dans le dernier mouvement, et seul le souci qu'on puisse ressentir cela comme une imitation extérieure de Beethoven me fit toujours hésiter. » Donc, il a fallu attendre cette 2e symphonie pour qu'il y ait une suite, en quelque sorte, à la 9e de Beethoven. Alors, bon, c'est évidemment une symphonie sublime, complètement, qui va de l'ombre à la lumière, extraordinaire, qui est à la fois lente et torturée par moments, très, très énergique à d'autres. Vraiment, ça a été mené de main de maître. Hein. À peine j'ai trouvé le l'andante moderato très tendre et très doux, peut-être un peu trop lent à mon goût personnel. Mais bon, c'est une manière de...
Ça, ce sont des discussions sans fin. Ça,
sans fin,
les
oui,
tempos,
oui,
il y en a qui vous diront ça leur va très bien, d'autres, ben non, qui ne s'y retrouvent pas.
Ouais,
et puis, encore une fois, on a tous des interprétations de référence.
Dans l'oreille.
Et quand ce n'est pas tout à fait celle que l'on préfère, ben évidemment, voilà.
Bien sûr. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé aussi le mouvement dans lequel Mahler se cite lui-même, se prêche au poisson de Saint-Antoine de Padoue, qu'il a extrait de son cycle Le corps merveilleux de l'enfant. Et alors, au mouvement suivant, Urlicht, enfin est apparue la voix soliste de Christa Mayer, qui remplaçait donc, en deux jours, elle a été...
Au pied levé ou presque.
Ah, vraiment au pied levé. Mais apparemment, c'est une œuvre qu'elle connaissait par cœur, puisqu'elle...
de partition.
Elle le chantait sans partition. Oui. Et vraiment avec un timbre extraordinaire, un timbre d'une beauté, d'une rondeur, une intensité expressive, une finesse. Ça n'est quand même pas n'importe qui, cette mezzo-soprane allemande a été titulaire pendant quelques années des rôles d'Herda et de Waltraut au Festival de Bayreuth. Donc on ne prend quand même pas n'importe qui. Donc vraiment, ça a été un grand moment plein d'émotions dans l'exécution de cette symphonie. Et puis, dans le dernier mouvement, comme le disait Anne-Marie, elle a tout à fait raison. Là, ce mouvement, c'est un crescendo vers l'éternité.
Enfin, ben oui, vers la vie éternelle, enfin, la résurrection, puis la vie éternelle. Vraiment. Je mourrai pour vivre, ce que tu as vaincu te portera vers Dieu. C'est les paroles, je les traduis, hein, le jugement dernier, puis après, donc voilà, la proclamation de la résurrection et de la vie éternelle. Cinq mouvements, 1h20, c'est une œuvre colossale, c'est vraiment une œuvre colossale.
Et là, vraiment, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Anne-Marie, le cœur d'Onostia, à l'orphéen d'Onostia, fait des choses tout à fait miraculeuses. Le début du cœur final, il fallait presque tendre l'oreille pour entendre. C'est murmuré, c'est une chose formidable. Et puis, on a eu le plaisir d'écouter de nouveau Christa Mayer, et à laquelle est venue se joindre la jeune soprano invitée, qui est originaire de Trinité et Tobago, qui s'appelle Janine de Bic, et qui a vraiment fait des choses. Elle chante très peu dans ce mouvement, mais sa voix était d'une fraîcheur tout à fait angélique, en situation tout à fait dans ce passage. Donc, les deux timbres étaient parfaitement assortis, donc très très beau, très très beau. Et un final, il faut non seulement redire la qualité de l'orchestre, mais aussi les féliciter pour les ensembles de cuivres qui jouent en coulisses. Parce qu'il y a dans le dernier mouvement en particulier, des échos entre le plateau donc et la coulisse. Et là, c'est pas très facile à faire. Ils ont fait ça de manière parfaitement synchrone, de même que on peut féliciter aussi Christik Jesi, le premier violon de l'orchestre,
qui a quelques solos. Toujours impeccable.
Qui a quelques solos dont il s'est magnifiquement tiré, effectivement.
C'était les corps qui étaient fabuleux,
formidable.
Aussi bien en coulisses que dans la salle.
Formidable. Ah oui, excellent, vraiment. Hein. Alors, on peut signaler que le même programme a été donné le mardi 11 février à la Philharmonie de Paris, donc ça fait plaisir de voir que Toulouse s'exporte en musique.
Oui, puis qu'elle réussit.
Il est enregistré, à Paris il a été enregistré, et il doit passer, je crois, c'est sur Radio Classique, à vérifier.
Moi j'ai lu ça aussi, effectivement.
À la fin du mois, je crois, à vérifier.
Bon, c'est pas le 25, 26 février, fin de mois, effectivement.
Il faudra vérifier, oui.
Oui, on l'annoncera ici.
Oui, sur Radio Classique.
On aura la date précise. Et puis donc, première réussite pour Janine de Bic, et même pour Christa Mayer, je crois que c'est la première fois qu'elle chante à Toulouse.
Oui, puisque à la fin, j'ai un peu discuté avec elle, et elle m'a dit qu'elle avait adoré l'atmosphère de cette salle qui encercle le...
Vous parlez de Christa Mayer ou de Janine de Bic?
Christa Mayer.
Eh bien, peut-être que nous aurons l'occasion de revoir ces deux chanteuses à Toulouse à l'avenir. Cette symphonie Résurrection, la deuxième composée par Gustav Mahler, est une œuvre vraiment immense. Alors, on va écouter un petit extrait. C'est une version de l'Orchestre National du Capitole, enregistrée en 2012 lors d'un concert à la Halle au Grain, où l'ensemble symphonique toulousain était dirigé déjà par Tougan Sokiev et où le chœur Orphéon de Nostiara était de la partie. On écoute pour le plaisir. un extrait de la symphonie numéro 2, Résurrection de Gustav Mahler par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tugan Sokiev. Nous allons reparler de la phalange toulousaine dans quelques instants, mais d'abord nous faisons l'habituelle petite pause avant de retrouver Anne-Marie et Serge pour la seconde partie de cette émission. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
L'agenda est la seconde partie de Mélomanie avec Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, et Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. C'est encore avec l'Orchestre National du Capitole et Tugan Sokiev que nous allons ouvrir cet agenda de la semaine, puisqu'ils sont de nouveau en concert à la Halle aux Grains ce samedi 15 février à 20h. J'ai dit avec Tugan Sokiev, sauf que malheureusement, lui aussi, cette fois-ci, c'est lui qui est souffrant, donc il va être remplacé, Serge va nous expliquer ça. Alors concernant le programme, là, pas de musique germanique, mais de la musique française, rien que de la musique française, au point que le soliste invité de cette soirée est français lui-même, il s'agit de Renaud Capuçon. Alors Serge, que vont nous jouer notre ensemble symphonique toulousain et le plus célèbre de nos violonistes dans ce programme sous-titré « Poésie française ».
Oui, eh bien, ils vont jouer du Ernest Chausson et du Maurice Ravel, donc deux grands compositeurs, avec des tempéraments un peu différents quand même. Hein. Et c'est Pascal Roffet qui sera le chef d'orchestre qui remplace Tugan Sokiev, souffrant, on vient de l'apprendre. Donc bon, c'est un très grand chef qui a déjà dirigé ici à Toulouse, qui a toujours fait des choses excellentes. Donc on a tout à fait confiance dans ce remplacement, tout à fait.
Oui, et puis bon, on aura en soliste Renaud Capuçon. Alors lui, on l'entend tous les ans à Toulouse.
Hein, et qui vient pour deux œuvres, hein, pas une seule.
Oui, d'abord, c'est vrai, il vient pas que pour un concerto pour violon, comme c'est souvent le cas. Non. Il va en jouer deux, là.
Carrément deux. Il va d'abord jouer le poème pour violon et orchestre de Chausson, qui est en fait un concerto pour violon, qui ne dit pas son nom, hein. C'est tout à fait la même chose. Hein. Et alors, ce poème, en fait, il a été inspiré à Chausson par une nouvelle d'Ivan Tourguenieff qui s'appelle « Le chant de l'amour triomphant ». Voilà, on en apprend tous les jours. Et puis c'est une œuvre importante que le compositeur a dédiée à Eugène Isaïe, le grand violoniste
de l'époque,
de la fin du 19e siècle. Hein. Donc, c'est vraiment une très belle œuvre et on a tout à fait confiance en Renaud Capuçon pour mener cette œuvre à bien. D'autant plus qu'à la suite, il jouera le fameux, alors beaucoup plus connu, Tzigane de Maurice Ravel, que Ravel lui-même a qualifié de morceau de virtuosité dans le goût d'une rhapsodie hongroise. Voilà, donc on est averti. Hein. La version initiale était pour violon et piano, mais c'est Ravel lui-même, la même année, en 1924, qui a orchestrer l'accompagnement, donc du violon. Oh, c'est une œuvre magnifique, brillante.
En un seul mouvement.
En un seul mouvement, très virtuose.
Oui, particulièrement difficile sur le plan technique.
Ah oui, tout à fait.
Un violoniste quand même très accompli et virtuose, donc pour la jouer. Voilà, la joue en tout cas au meilleur niveau. Alors je crois qu'elle avait été inspirée à Ravel, par, entre autres, hein, par l'écoute de la sonate pour violon et piano numéro 1 de Bartok.
Oui, exactement.
Voilà, la Hongrie.
Bah, bien sûr, hein, la musique magyare, hein, ça a inspiré beaucoup de compositeurs dans toute l'Europe. Donc on se réjouit de voir Renaud Capuçon, de le retrouver à Toulouse dans ses deux œuvres tout à fait magnifiques. Et puis en seconde partie, alors on revient à Ernest Chausson avec sa fameuse symphonie, son unique symphonie, symphonie en si bémol majeur, qui est une partition tout à fait haute en couleur. Hein. Et alors, qui résulte un peu d'une espèce de synthèse entre les influences de César Franck et puis de Wagner, puisque Chausson était un grand admirateur de Wagner. Donc, et on peut dire qu'elle respecte une certaine tradition germanique, cette œuvre. Hein. Française, évidemment, puisqu'elle en a les couleurs, hein. Mais quand même, il y a une espèce d'utilisation du chromatisme qui est vraiment hérité de Wagner. Donc, on est tout à fait heureux de réécouter cette œuvre dans laquelle Michel Plasson excellait. Hein,
c'est ce que j'allais dire. Grand défenseur de la musique française fin 19e, début 20e, et notamment de celle de Chausson.
Absolument. Symphonie qu'il a enregistrée d'ailleurs. Avec l'orchestre.
Oui, et ça a été, il faut le souligner, le premier enregistrement de l'Orchestre du Capitole.
Ah,
le tout premier en micro-sillon. À l'époque, je travaillais dans un magasin de disques et il y avait eu une présentation, c'était l'événement. Michel Plasson était venu pour fêter le premier enregistrement de l'Orchestre du Capitole avec cette symphonie.
Bon, si c'est la première œuvre qu'il a enregistrée avec le Capitole, c'est dire aussi à quel point il devait l'aimer.
Ah oui.
Elle a été rééditée, bien sûr, en CD.
Pour ceux qui s'intéressent, on peut la trouver en CD par l'Orchestre du Capitole dirigé par Michel Plasson. Eh bien, on va pas écouter du Chausson, j'ai une version de Tzigane de Ravel jouée par Renaud Capuçon et c'est celle-ci que je vous propose d'écouter tout de suite. Un extrait de Zigan, la rhapsodie de Maurice Ravel, interprétée par Renaud Capuçon, qui la jouera avec l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Pascal Roffet, ce samedi 15 février à 20h à la Halle au Grain, lors d'un concert où l'on pourra également entendre le poème pour violon opus 25 et la symphonie en si bémol majeur opus 20 d'Ernest Chausson. Nous reviendrons à l'Orchestre National du Capitole dans quelques minutes, puisqu'il donne un autre concert à la Halle au Grain vendredi prochain, le 21 février. Entre temps, il va y avoir un récital de piano à l'Auditorium du Musée des Abattoirs, mardi 18 février à 18h30. Il est proposé par la Saison Bleue, fondée et dirigée par Alain Lacroix, et c'est une pianiste d'origine russe qui y est accueillie mardi prochain. Elle s'appelle Vera Tsibakov et elle va jouer un programme en lien avec le cycle Éléments en fusion. On y trouve un grand nombre de pièces et de compositeurs qui sont ses compositeurs. Serge Ozy, c'est très éclectique.
Ah, tout à fait éclectique, puisque ça commence par du Chopin, avec la barcarolle en fa dièse majeur, puis un extrait des scènes d'enfants, Am Kamin, une des pièces, j'imagine, de Robert Schumann, puis ensuite deux pièces de Maurice Ravel, Jeu d'eau et une barque sur l'océan, extraite des Miroirs. Donc voilà, on passe vraiment de musique allemande à la musique française, et puis on va vers la musique russe avec du Tchaïkovski, un extrait du cycle Les Saisons, avec le mois de janvier, qui est sous-titré Au coin du feu, donc c'est l'opus 37 bis. Puis on reste encore en Russie, vous voyez, vraiment il y a une variété incroyable, avec la fameuse pièce Vers la flamme d'Alexandre Scriabine, une œuvre magnifique, hein, vraiment, qui correspond au titre du cycle dans lequel jouera cette pianiste, qui s'appelle Éléments en fusion. Là vraiment, Vers la flamme, on a la fusion absolue, hein. C'est tout à fait incroyable. Et puis on revient vers la musique française avec Claude Debussy, avec extrait du livre 1 des préludes, La cathédrale engloutie, extrait du livre 1 des images, Les reflets dans l'eau, et du livre 2 des préludes, le fameux feu d'artifice. Tout cela se termine avec un grand tube, hein, la danse rituelle du feu, extrait de l'amour sorcier de Manuel de Falla. Donc vous voyez, Pologne, Allemagne, France, Russie, Espagne, on va partout.
Voilà, et les éléments en fusion, c'est quand même beaucoup l'eau et le feu.
Oui,
c'est essentiellement l'eau et le feu. Ah, on voit, il y a la barque sur l'océan, les jeux d'eau, au coin du feu, vers la flamme, les reflets dans l'eau, feu d'artifice, danse rituelle du feu.
Tout à fait. Non, c'est très bien. Et puis on est très content de découvrir
un nouveau talent. Oui, parce que je pense qu'elle n'a jamais joué à Toulouse, Vera Tsibakov, qui est une jeune pianiste.
Non, hein. Elle est née à Moscou en 1982. Elle est à la fois pianiste, pédagogue et chef de chœur. Vraiment, elle couvre toutes les... Et elle a été l'élève ou la disciple de Brigitte Ingerer.
Oui, j'ai vu ça, effectivement. C'était une élève de la grande Brigitte Ingerer.
Disparue maintenant, qui a été vraiment un professeur exemplaire. Hein.
Malheureusement, disparue un peu prématurément. Oui, on le regrette. Parce qu'il y a des enregistrements magnifiques de Brigitte Ingerer.
Absolument. Et puis, cette pianiste russe a donc a été lauréate du concours Marguerite Long-Jacques Thibault en 2004.
Oui.
Ce qui est quand même un signe de qualité. Hein. Donc, on est tout heureux de découvrir cette jeune pianiste.
Franco-russe, en fait, puisque, comme vous l'avez dit, elle est née russe à Moscou, mais elle est mariée avec le pianiste français Romain Hervé. Bon, c'est sans doute pour ça, elle est installée depuis déjà pas mal d'années en France. Et Romain Hervé se produira lui aussi dans la Saison Bleue dans quelques semaines. Vous aurez l'épouse et l'époux à quelques semaines d'écart. Ça sera peut-être intéressant de comparer, d'ailleurs. On va écouter Vera Tsibakov, qui va nous permettre de rester dans la belle musique française du début du XXe siècle, après de Maurice Ravel, voici le lumineux reflet dans l'eau, pièce extraite du livre 1 des images de Claude Debussy. Thank you. Reflet dans l'eau, pièce extraite du livre 1 des images de Claude Debussy joué par Vera Tsibakov, qui sera donc en récital ce mardi 18 février à 18h30 à l'auditorium du musée des abattoirs, un concert à rattacher au cycle Éléments en fusion de la saison bleue. Outre Debussy, elle interprétera également des œuvres de Chopin, Schumann, Ravel, Tchaïkovski, Scriabin et Manuel Defaya. Comme je vous l'avais annoncé, nous revenons maintenant à l'Orchestre National du Capitole et au concert qu'il va donner vendredi 21 février à 20h à la Halle aux Grains. Un violoniste sera encore à ses côtés, le japonais Fumiaki Miura. Un chef russe va le diriger et ce ne sera pas Tougen Sokiev, mais Maxime Emelianichev, qu'on commence à bien connaître à Toulouse puisqu'on l'y voit chaque année depuis quelques temps. Quel programme vont-ils nous jouer vendredi prochain, Serge ?
D'abord, rappelons que Maxime Emelianichev, qui a tissé des liens vraiment avec les musiciens de l'orchestre, est à la fois chef d'orchestre, pianiste, claveciniste et qu'il joue du cornet à bouquin. Donc c'est vraiment une personnalité incroyable, une personnalité musicale. Et donc il revient le 21 février pour jouer avec ce jeune violoniste qu'on ne connaît pas encore à Toulouse, Fumiaki Miura, qui est né à Tokyo en 1993. Il a donc à peine 27 ans. Hein, et il est un peu guidé dans sa carrière par Pinchas Zukerman, qui est tout de même un gage de qualité. Et donc, ce jeune violoniste jouera en soliste dans le concerto pour violon de Benjamin Britten, qui a été créé en 1940 à New York. Un concerto qu'on n'entend pas très souvent. Hein.
Mais moi, je pense qu'il y a très très longtemps qu'il n'a pas été joué à Toulouse. Enfin, moi, je dirais bien au moins 10 ans, mais sans doute plus même.
Ah oui, oui, moi, je n'ai pas souvenir.
Ou alors, ça m'a échappé. Mais...
Il faudrait faire des recherches historiques pour savoir quand est-ce qu'on a donné ce concerto. Alors, il y a une réplique amusante. Une journaliste demandait, comme il n'est pas très joué, comment expliquez-vous que ce concerto de Britten ne parvient pas à s'imposer au répertoire. Et le violoniste qu'interrogeait le journaliste, qui était James Hens du Canada, dit parce qu'il est trop dur, il y a des pièges techniques extrêmement vicieux, proches de l'injouable. Donc voilà à quoi va s'attaquer ce jeune violoniste. On est tout content de l'entendre dans une œuvre aussi difficile.
Et pour une première à Toulouse, il prend des risques.
Ah oui, oui, mais c'est ça, c'est ce qu'il faut. Hein. Donc c'est très bien.
Parce qu'il est tout jeune, il a 27 ans.
Hein, 27 ans, oui. Et avant ce concerto, on aura le plaisir d'entendre, de réentendre, on l'a déjà donné à la Halle aux Grains, de John Adams, les The Chairman Dances, qu'il qualifie de Foxtrot for Orchestra. Voilà ce qu'en dit John Adams. Alors c'est une œuvre symphonique qu'il a créée, qu'il a composée en même temps qu'il composait son fameux opéra Nixon in China, qui est un opéra qui a fait sa gloire, hein, en quelque sorte. Et parce que John Adams est particulier, il aime bien les sujets actuels, et donc il a écrit un opéra, Nixon in China, sur la visite, la première visite
du président Nixon,
auprès de Mao Tse-tung. Et ces danses du président, en quelque sorte, eh ben, elles sont faites pour illustrer la danse frénétique que Mao Tse-tung avait soi-disant fait avec son épouse de l'époque.
Donc. Oui, je sais que c'était resté célèbre, cette histoire de Mao dansant avec...
Avec Madame Mao, enfin je ne sais plus comment, c'est Mao Tse-tung et son épouse.
Et son épouse, oui, voilà. Mao et sa femme.
Voilà. Et puis quand même, en deuxième partie, on célébrera une fois de plus le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven avec sa 6e symphonie pastorale, qui est une symphonie traditionnelle, hein, que l'on connaît bien, et qu'il avait composée en même temps que la 5e symphonie. Alors, il y a une chose que je voudrais indiquer. J'ai découvert quel était le programme du concert qu'a dirigé Beethoven pour la création de cette 6e.
De la pastorale, oui.
C'est incroyable. Le concert de création a duré plus de 4 heures. Il y avait au programme cette 6e symphonie, un air de concert à perfido, le Gloria de la messe en ut majeur, le 4e concerto pour piano, interprété par Beethoven lui-même au piano, et en deuxième partie, la 5e symphonie, le Sanctus et le Benedictus de la messe en ut majeur, une fantaisie pour piano solo que Beethoven a improvisée, et la fantaisie chorale, qui est la fameuse esquisse de la 9e symphonie. Voyez un peu quel était le programme des concerts à cette époque-là.
Mais ça devait durer des heures.
4 heures, plus de 4 heures de musique.
Ça me fait penser à ces menus qu'on voyait dans les mariages il y a fort longtemps. Vous voyez.
Exactement.
Il y avait café, pousse café, le digestif.
Le concert du 21 février durera beaucoup moins, évidemment.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, le sous-titre de ce concert, c'est l'année Ludwig.
Voilà.
Comme on pouvait s'y attendre. Et puis bon, on aura le plaisir de revoir Maxime et Melianichev, qui je crois est très apprécié du public toulousain.
Ah oui, oui, oui. Il y a beaucoup de fantaisie, beaucoup d'imagination. Et il est, vraiment, il a un sens de l'interprétation. Il renouvelle les interprétations des œuvres qu'il aborde. Hein.
Oui, lui aussi, bon, il prend des risques, clairement, là, quand il dirige. Oui. C'est-à-dire que c'est assez tranché. Il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas. Bon, ben, oui. C'est souvent comme ça lorsqu'on sort un peu des sentiers battus. Alors, comme on ne connaît pas Fukuyami Miura et que le concerto pour violon de Britten est une œuvre qu'on n'entend pas tous les jours, nous allons nous faire un devoir d'écouter le premier jouer le second. Voici Fukuyami Miura dans ses œuvres. Le début vivace du deuxième mouvement du concerto pour violon de Benjamin Britten, joué par Fukuyami Miura, qui rejouera cette pièce sous la direction de Maxime Emelianichev vendredi prochain, 21 février à 20h, lors du concert que donne l'Orchestre National du Capitole à la Lograin et où seront interprétés également The Chairman Dances de John Adams et la pastorale La 6e Symphonie de Beethoven. Nous allons terminer cet agenda avec le prochain concert de la saison des Clés de Saint-Pierre. Il a lieu lundi 24 février à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines et il est intitulé Ombre portée. C'est un programme de quatuor à cordes particulièrement original, comme les Clés de Saint-Pierre ont l'habitude d'en proposer à leur public. Alors Serge, quelles sont les œuvres et les compositeurs programmés et qui sont les musiciens qui vont les jouer?
Alors d'abord les œuvres, ben, il y a trois quatuors, avec d'abord le quatuor numéro 4 de l'opus 18 de Beethoven. On reste toujours proche de Beethoven hein, dans cette, tout au long de la saison. Puis ensuite, une double pièce de Dmitri Shostakovich, Élégie et Polka. Une pièce tantôt lyrique et tantôt sarcastique. Hein. C'est tout à fait à l'image de Shostakovich. Et enfin, le premier quatuor du grand compositeur tchèque, Leo Janáček. Quatuor numéro 1, intitulé Sonate à Kreutzer, puisque c'est une œuvre dans laquelle il s'est inspiré d'une nouvelle de Tolstoï, et donc indirectement de Beethoven, puisque Sonate à Kreutzer...
Lui aussi... C'est le premier à voir, effectivement.
Alors, le quatuor qui va jouer ceci est un quatuor, on peut dire, constitué au sein de l'Orchestre de Capitole, puisqu'il a un nom, il s'appelle Cordes et âmes, et il est composé de Mary Randles et Laura Jaillet au violon, Isabelle Mention à l'alto et Gaël Sédoux au violoncelle. Alors, il faut quand même préciser que tous les concerts des Clés de Saint-Pierre de cette année, dans tous ces concerts, la musique est associée à un autre art. Alors, on a eu des tas de choses, la peinture.
La peinture, la danse, la littérature au départ.
Au départ. Et puis là, ce sera associé à des ombres chinoises, à un théâtre d'ombre, théâtre des ombres, pardon, ce qui est le nom de la compagnie qui animera la partie visuelle, donc, et qui est composée de Roshanak Roshan, Christophe Bastien Thierry, manipulateur.
Oui, ceux qui vont donc faire les manipulations, les ombres porteurs. Je pense que ça va se faire à travers des vidéos qui vont être projetées. Enfin, eux vont faire les ombres.
Sûrement.
Ça va être projeté sur
l'écran. On va découvrir.
On peut le présumer, mais après tout, on n'en sait rien. Comment ça va se marier avec la musique, on n'en sait rien non plus.
Eh ben voilà, on verra.
Est-ce que c'est improvisé? Est-ce que c'est déjà... J'aurais tendance à penser que c'est peut-être quand même préparé, parce que ça se fait pas comme ça. Mais bon, ça va être quelque chose d'original là aussi. Je voulais revenir sur Janáček, parce qu'on entend malheureusement rarement sa musique.
Pour des raisons
que moi je ne m'explique pas, parce que je trouve que c'est un compositeur merveilleux.
Absolument.
Notamment sa musique de chambre.
Mais oui. Alors, ce qu'on entend de Janáček, outre ses opéras,
Il va y en avoir un d'ailleurs cette année.
Il y en a eu cette année, Yanoufa, au mois de mai, je crois. On a eu quelques opéras de lui. Et puis, la seule œuvre qu'on entend quelquefois au concert, c'est sa Sinfonietta. Alors à la rigueur, oui, mais à part ça, c'est vrai qu'on joue très peu la musique de chambre de ce grand compositeur, qui est d'une originalité incroyable. Qui a des harmonies stupéfiantes, reconnaissables immédiatement, donc c'est vraiment un grand compositeur.
Oui, c'est, comme on dit aujourd'hui, c'est un univers bien propre. En revanche, il y en a un qu'on redécouvre depuis quelques années de plus en plus, y compris pour sa musique de chambre, c'est Shostakovich.
Oui, mais là, il y a de quoi faire. Il y a 15 quatuors à cordes, plus pas mal d'œuvres de musique de chambre, des musiques pour orchestre en dehors des 15 symphonies. Et donc, il y a beaucoup de choses à jouer. Et puis, Touhan Sokiev est un grand
défenseur de la musique de Shostakovich. Bon, symphonique, bien sûr.
Bien sûr.
À la tête de l'Orchestre du Capitole, puisqu'ils vont enregistrer, en tout cas, c'est prévu, l'intégrale des 15 symphonies.
Oui.
De Shostakovich. Bon, là, Shostakovich, ce sera Elegy Polka. Là aussi, c'est pas une œuvre qu'on entend très souvent, je crois.
Ah non.
Alors, je le disais, Leos Janáček est un merveilleux compositeur, malheureusement assez peu joué en regard de son talent, je pense, notamment encore une fois sa musique de chambre. Je vais donc vous faire écouter maintenant un extrait de son quatuor numéro 1, Sonata Kreutzer, le premier mouvement. Thank you. Le premier mouvement du Quatuor numéro 1, Sonate à Kreutzer de Leos Janáček, une des trois œuvres au programme du prochain concert des Clés de Saint-Pierre, intitulé Ombre portée, il a lieu lundi 24 février à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines bien sûr. Et le temps est venu de conclure ce numéro de Mélomanie, auquel je remercie mes chers camarades Anne-Marie Chouchan et Serge Chosy d'avoir participé. Avant de rendre l'antenne, dernier appel concernant les événements programmés dans les jours à venir. Dès ce samedi 15 février à 15h, je signale que le cinéma L'ABC de Toulouse diffuse La Belle au bois dormant, le ballet de Tchaïkovski, en direct de Covent Garden, le Royal Opera House de Londres, dans la chorégraphie de Marius Petipa. Réservation et achat des places en ligne sur le site www.abc-toulouse.fr. Ce même samedi 15 février à 20h, l'Orchestre National du Capitole donne son programme Poésie Française à la Halle aux Grains. Dirigé par Pascal Roffet, l'ensemble symphonique toulousain va accompagner le violoniste Renaud Capuçon dans l'interprétation du poème pour violon opus 25 d'Ernest Chausson et de Zigane, la rhapsodie pour violon de Maurice Ravel. La symphonie en si bémol majeur opus 20 du même Chausson est également au programme. Vous pouvez vous renseigner, réserver et acheter vos places sur le site www.onct.toulouse.fr. C'est aussi sur ce site que vous pouvez faire vos réservations et vos achats de places en ligne pour le concert suivant, vendredi 21 février à 20h, toujours à la Halle aux Grains bien sûr, où l'Orchestre National du Capitole sera dirigé cette fois-ci par Maxime Emelianichev. Il accompagnera le violoniste Fukuyami Miura pour interpréter le concerto pour violon de Benjamin Britten. Seront aussi joués lors de cette soirée The Chairman Dances de John Adams et la symphonie numéro 6, la pastorale de Beethoven. Je signale que ce concert est également donné la veille, jeudi 20 à 20h pour les étudiants et il est gratuit. Mardi 18 février à 18h30 à l'auditorium du musée des abattoirs, récital de la pianiste Vera Tsibakov à l'invitation de la Saison Bleue. Elle va jouer un programme d'œuvres de Chopin, Schumann, Ravel, Tchaïkovski, Scriabine, Debussy, Emmanuel Desfayas. Renseignements et réservations sur le site www.lasaisonbleue.toulouse.fr. Et enfin, je rappelle de nouveau le prochain concert des Clés de Saint-Pierre, lundi 24 février à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Il est sous-titré Ombre portée et vous pourrez y entendre des Quatuor à cordes de Beethoven, Shostakovich et Janáček, interprété par le Quatuor Cordes et âmes, pendant que seront projetées des ombres chinoises de la compagnie Théâtre des Ombres. Je vous invite à réserver et acheter vos places sur le site www.lesclésdesaintpierre.org. Merci à Christophe Aubry d'avoir encore assuré la réalisation de ce numéro, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de votre fidélité à cette émission et très bonne semaine musicale à tous.